Le dossier Alvin d'Alessandro Mercuri aux éditions Art et Fiction dans la collection Repacifique. Je suis en compagnie d'Alessandro Mercuri, bonjour.
Bonjour.
Nous parlons de ce nouveau livre, Le dossier Alvin, enquête, archive, photographie. C'est ce livre, Alessandro Mercuri, Le dossier Alvin, a une belle photographie recto et verso. C'est l'inauguration d'Alvin, ce sous-marin d'exploration avec tout un parterre qu'on imagine de personnalités. Assis, les dames ont des beaux chapeaux. Cette photographie de couverture, c'est pour un peu poser le contenu du livre, pour poser le personnage principal.
Donc le personnage principal, Alvin qui est un prénom anglais, anglophone, prénom pour une personne, et pourtant la personne en question est un sous-marin, un engin, un navire, un submersible, un bathyscaphe, et donc non un être humain. Et la présence de cette image, où il s'agit en réalité du baptême du navire, navire créé en 1964 en pleine guerre froide, devant un parterre d'officiels américains. On peut supposer qu'il y a beaucoup de militaires présents, parce que Alvin est en fait la propriété de la US Navy, la marine de guerre des États-Unis, et il est par ailleurs opéré par un institut privé, une institution privée, un centre de recherche océanographique nommément inscrit sur la coque du navire, le Woods Hole Oceanographic Institution, qu'il faut remercier parce qu'ils m'ont beaucoup aidé en m'autorisant à utiliser leur fonds iconographique d'images.
Juste après cette couverture, le lecteur tourne les premières pages et nous assistons à un générique de film américain, générique de la Columbia. Et sur cette scène qui se passe à Hollywood le 22 novembre 1963 à 10h30, la projection test du nouveau film de Stanley Kubrick, Dr. Strangelove, en français, le docteur Folamour. Qu'est-ce qui se passe ?
On peut se demander pourquoi, alors qu'il s'agit de l'histoire d'un sous-marin, on commence par tout autre chose, on commence par un film, donc le monde de la fiction, mais documenté par rapport à une projection cinématographique. On inscrit, le livre s'inscrit tout de suite dans une mythologie liée à la guerre froide, bien sûr le film, mais aussi la collusion entre cette projection test et un événement qui va soudainement interrompre la projection. Cette histoire est vraie. Il s'agit le même jour, donc à Hollywood, Los Angeles, projection du film, et exactement au même moment à Dallas, l'assassinat de Kennedy. Et donc il y a un jeu de miroir entre cet événement cinématographique et cet événement historique, politique et médiatique.
Notamment avec cette image là que nous avons de Johnson, de Jackie Kennedy dans l'avion, où assez rapidement le vice-président doit devenir président. Et cette image curieuse, touchante, émouvante, dramatique, elle a rajouté par toi, Alessandro, ce personnage qu'on voit, Jacques Valenti. Et Jacques Valenti, c'est peut-être par là où pourrait éventuellement commencer cette intrigue avec Alvin.
Oui, puisque Jacques Valenti symbolise en un sens à cette époque, du moins dans les années 60, la rencontre entre Washington, la capitale fédérale des États-Unis, mais qui en réalité ne représente pas tout le siège du pouvoir américain, puisque l'autre capitale, c'est Hollywood, en fait, à Los Angeles, parce que cette capitale cinématographique, c'est aussi l'autre versant du pouvoir américain. Et Jack Valenti est révélateur de cet aspect bicaméral, en un sens, du pouvoir, puisqu'à l'époque de l'assassinat de Kennedy, il est le publiciste, le représentant presse de Kennedy à Dallas. Très rapidement, il va être embauché par Lyndon Johnson, qui prête serment pour travailler dans la communication à la Maison-Blanche. Mais il va être débauché par un des patrons de studio d'Hollywood et il va partir à Hollywood. Et pendant très longtemps, et c'est en cela qu'il est resté connu, il est le président de la MPAA, la Motion Picture American Association, qui représente des intérêts de syndicats de producteurs et qui représente aussi les intérêts de l'industrie cinématographique américaine.
Et avec ça, on revient à nouveau à Dr. Strangelove, donc Dr. Follamour, dont la sortie est déprogrammée, bien entendu, suite à l'assassinat de Kennedy. Sa sortie est déprogrammée. Dans ce film, il y a, bien entendu, état de cette mythologie autour de la guerre froide. Et on va, petit à petit, quand Alvin va arriver, il y a cette mission que va faire Alvin au large des côtes espagnoles, première mission pour tenter de repérer un missile nucléaire qui est tombé dans la mer Méditerranée. Il doit localiser ce missile, c'est-à-dire que c'est par le biais de la guerre froide, c'est aussi par le biais forcément aussi un peu de mythologie, donc de cinéma, qu'arrive le personnage, le sous-marin Alvin.
L'arrivée du personnage principal, Alvin, est finalement assez retardée dans l'ouvrage parce que précédemment, il y a cette contextualisation historique que tu décrivais et également ce passage incessant entre la fiction cinématographique, mais non pas seulement dans le récit cinématographique, mais aussi dans ce qui tourne autour de la fabrication de ces films et cette relation ou à des événements militaires catastrophiques qui ont véritablement lieu, au sens où quelques années après le scénario apocalyptique de l'explosion nucléaire présente dans Dr. Strangelove, un événement identique arrive, qui reprend d'ailleurs la séquence de début de Dr. Strangelove, de ravitaillement de kérosène, de carburant d'un B-52, image mythique d'ouverture du film, et il s'avère qu'en réalité, l'incident nucléaire qui ouvre l'arrivée d'Alvin reprend exactement le même modèle d'action, c'est-à-dire séquence de ravitaillage de kérosène, et malheureusement, les deux avions se crashent l'un sur l'autre, et le B-52, lui, a dans ses soutes, à l'intérieur de son cargo, plusieurs bombes atomiques. Et donc, ça fait partie de ces incidents nucléaires où la bombe n'a pas explosé, bien sûr, sinon l'histoire en aurait été extrêmement modifiée. Mais il s'agit tout de même d'un incident nucléaire. L'avion se crash en Espagne. Il faisait partie, justement, comme dans le Docteur Follamour, de ces forteresses aéroportées utilisées en cas de guerre. Et donc, puisqu'il n'y avait pas des missiles, les bombardements se faisaient par avion, non pas depuis des silos. Et donc, plusieurs bombes atomiques tombent au sol, sans générer néanmoins d'explosion atomique. Bon, des émissions radioactives catastrophiques, des tonnes et des tonnes et des tonnes de terre renvoyées en traitement aux États-Unis. Mais ce qui se passe, c'est que l'une de ces bombes atomiques tombe dans la mer Méditerranée et elle demeure introuvable pendant de longues semaines. Heureusement, un pêcheur espagnol voit la bombe atomique presque fondre sous les eaux devant ses yeux. Il va être engagé immédiatement par l'armée américaine pour aider les forces à résoudre en fait ce mystère, à récupérer cette bombe. Et c'est là où, pour récupérer une bombe dans ses fonds marins à plusieurs centaines de mètres, eh bien c'est là où ce submersible Alvin, qui est très jeune à l'époque, il a 3 ans, rentre en action. Et c'est grâce à ce submersible que la bombe pourra être remontée à la surface.
Et c'est là où va commencer l'histoire de ce sous-marin, Alvin. On est en pleine guerre froide, on a le cinéma avec Dr. Follamour, on a le risque, le danger, on a le bulletin des scientifiques atomiques par la Doomsday Clock, qui peut indiquer qu'on est quasiment à minuit ce 17 janvier 1966, quand il y a cet incident entre ces deux avions Boeing B-52 et les bombes nucléaires qui tombent et qui ne se déclenchent pas, parce que tu nous expliques d'ailleurs dans le livre qu'elles ne peuvent pas, c'est des bombes très très sécurisées en fait, c'est des bombes H, et que ça n'explose pas du tout comme ça, et que ça peut même exploser sans sans donner une bombe H, cette première mission relatée, en tout cas, d'Alvin qui rentre dans la grande porte de l'histoire. Ça, en commençant cette enquête-là, tu en avais déjà connaissance de cette histoire ou tu l'as découverte petit à petit?
Je l'ai découvert petit à petit, et ça fait partie de ces événements qui sont, en un sens, des non-événements, au sens où, heureusement, la catastrophe n'a pas eu lieu, et ça fait partie un peu de cette histoire secrète, ou moins connue, de la guerre froide. Et en fait, je n'ai pas pris connaissance tout de suite de cette histoire, puisque cette histoire, je l'ai apprise en étudiant Alvin. Et Alvin, je l'ai découvert pour une toute autre raison, pour une toute autre mission qui a lieu au cours des années 2000, suite à la lecture d'un entrefilet, d'un article sur la découverte d'une créature sous-marine. Donc en fait, je suis rentré par Alvin, par une toute autre porte dans l'histoire contemporaine et dans la recherche océanographique, puisqu'à nouveau, c'est un peu l'aspect double de ce submersible, c'est un submersible donc de l'armée pour des missions militaires, mais également pour des missions océanographiques. Donc on est à la fois donc les missions militaires, il faut se rappeler donc la guerre froide dont on est sorti maintenant pour rentrer dans d'autres formes de conflits, mais également dans un univers complètement Jules Vernesque de 20 milieux sous les mers, de découvertes de vie, de faune, de flore, des abysses. Et parce qu'il faut des engins spécialisés qui résistent à des très fortes pressions pour aller dans ces abysses. D'où cette découverte d'un, ça paraît juste bêtement, d'un crustacé, mais c'est une espèce extrêmement rare, une espèce toute nouvellement découverte, très très étrange. Il y a un peu cette fantasmagorie également des créatures, puisque c'est le monde sous-marin qui remplace finalement ce monde cosmique, des espèces extraterrestres, extrasolaires. Et bien en fait, dans les eaux très profondes, on rencontre quantité d'espèces et on continue à les découvrir. Et donc là, il s'agit d'une découverte d'une Galatée. Elle a été nommée Galatée Yeti, c'est son nom vernaculaire. Le nom scientifique est Kiwa Hirsuta. On remarque que dans les deux termes, Galatée Yeti et Kiwa Hirsuta, il y a une histoire de poil. Hein. Le Yeti, bien sûr, Hirsuta, parce que ce crustacé est doté de pinces démesurées, entièrement recouvertes de poils de soie. Donc c'est une créature extrêmement, extrêmement troublante.
Et cette créature, elle te mène à écrire, à penser, elle te dirige vers des réminiscences sur cette culture que tu as, sur cette culture antique notamment, et à partir de ce crustacé découvert, ça te fait penser à d'autres éléments de notre culture.
Oui, le livre est en fait aussi une histoire de mots et de noms, puisque ça commence par Alvin, qui est un nom, comme on l'a dit, assez. On est dans l'anthropomorphisme, on est dans le cartoon presque, hein, c'est une tradition américaine. Et la Galette Yeti, bien sûr, parce que le nom, moi, m'a extrêmement troublé, parce que tout de suite, moi, ça m'a évoqué la Galette de Cervantes. Roman pastoral de Cervantes, mais qui est un livre dans un livre, puisque Cervantes, le narrateur en tout cas dans Don Quichotte, nous décrit la bibliothèque de Don Quichotte, où le barbier et le prêtre sont prêts à mettre au feu, à jeter toutes les œuvres de Don Quichotte. Et à un moment, un personnage intervient pour dire qu'il ne faut pas justement brûler la Galatée de Cervantes. Donc Cervantes incluant dans son œuvre un autre roman. Et ça m'avait étonné de. Donc le nom déjà Galatée Yeti, bien sûr, le Yeti, c'est abominable, homme des neiges. Donc il y a un jeu sur à la fois des scientifiques qui vont baptiser une espèce. Donc c'est vraiment une opération financée en plus par l'Ifremer. Qui également m'a autorisé à utiliser leur fonds iconographique pour d'autres missions. Et puis il y a de multiples Galatées, en fait. Il y a une polysémie de la Galatée, puisqu'il y a la Galatée Néréide, nymphe d'eau salée. Et il y a la Galatée, aussi une autre Galatée, qui est l'œuvre sculptée de Pygmalion. On connaît plus Pygmalion, Ovide ne cite jamais la Galatée comme œuvre de Pygmalion, mais elle est restée dans l'histoire et dans l'histoire de l'art, puisque c'est un mythe pictural ou sculptural aussi, puisqu'il y a des sculptures de Pygmalion et Galatée, ce qui est assez étrange, parce que c'est plus une réalité picturale, en fait. Et donc, elle s'appelle Galatée. Donc, il y a de multiples Galatées, et je trouvais ça intéressant de filer et d'enquêter, filer la métaphore ou les noms, et d'enquêter sur cette polysémie de termes qui a trait aussi beaucoup à la mer, en fait.
Parce que ce livre-là, Sœur Alvin, c'est une construction de liens sur des faits. Alvin. Alvin nous renvoie aux faits, mais après, il te fait penser, par la culture, à des liens. Il te fait penser alors à la Galatée de Cervantes, avec ce fait que Cervantes, le 26 septembre 1575, il est à bord d'une galère, il vogue sur la Méditerranée, il retourne en Espagne, et on se situe au large de Palamos, pas loin de Palomares, où ben, on retombe sur nos pattes 400 ans plus tard, en 1966, il y a la bombe atomique, une bombe à hydrogène qui va tomber des cieux, où justement Alvin va intervenir. Donc il y a toute une politique de lien dans ton livre, où ce n'est pas tant Alvin qui va t'intéresser, c'est lui qui va représenter les faits, c'est lui qui va représenter l'action, mais c'est pour mieux t'en défaire et mieux faire une politique poétique du lien, une politique inventive, une utilisation inventive des liens.
Oui, parce que le texte en lui-même est une forme assez hybride. Il mêle l'essai, le document, le documentaire, en même temps le travail, l'enquête sur des documents, puisqu'il s'agit d'un ouvrage illustré, mais dans ces images, il y a aussi des reproductions de documents, de rapports financiers, de compagnies spécialisées en armement, des archives déclassifiées, donc des services secrets appartenant à des pôles universitaires. Et donc les documents, on est dans l'absolu, entre guillemets, du factuel, mais également donc forme hybride entre le documentaire, le récit documenté, mais aussi une réflexion qui n'est pas forcément une réflexion théorique universitaire, mais comme tu le dis, une mise en lien entre des registres très différents, des registres de valeurs différents aussi entre une culture entre guillemets savante et aussi une culture proche du cartoon, du détail anecdotique, et c'est dans cette mise en lien de différents registres aussi.
Et ça produit une jubilation, cette utilisation du lien quand on lit ce livre, et c'est un peu ce qu'on retrouve dans tous les autres textes que tu écris, Alessandro, ça produit une jubilation. Une jubilation de mélanger une culture un peu basse, populaire, et une culture savante.
Oui, alors la jubilation, effectivement, il y a un projet conscient de, ça peut paraître vulgaire, mais de littérature à effet, en tout cas, puisqu'on est dans un registre qui n'est pas non plus le roman, mais cette forme hybride entre l'essai et la fiction a pour but de générer des effets de fiction. Et cette jubilation dans cette mise en lien, c'est aussi finalement le mode même de l'enquête, puisque Edgar Poe, les enquêtes, premières enquêtes, c'est justement dans cette possibilité, dans cette capacité de relier des événements qui n'ont peut-être finalement pas de relation de cause à effet immédiate. On est peut-être dans un mode de la synchronicité aussi, ou peut-être d'une perspective symbolique. Mais cette jubilation, à nouveau, en fait, c'est celle que j'aimerais atteindre pour le lecteur, mais c'est aussi celle de l'auteur-enquêteur, puisque c'est véritablement une enquête au sens strict du terme. C'est en un sens la restitution de ma propre enquête. Le récit est celui-là, de la découverte d'événements, d'histoires qui sont entre la grande histoire et la petite histoire, mais extrêmement troublant parce que les bases sont assez ténues. Elle reste en un sens assez secrète parce que même s'il y a des classifications, des documents, bien sûr, c'est une histoire qui reste secrète. Donc, il n'y a pas encore énormément d'élaboration historique en tant que telle. Donc, du fait de cette absence, de ce manque, c'est aussi un territoire qui permet d'aller dans une approche fantasmatique pour combler ces trous, pour pouvoir en parler, puisqu'il n'y a presque rien, même si les événements sont réels. Et puis, bien sûr, puisque cette approche historique est liée à la paranoïa nucléaire, hein, à la paranoïa de cette guerre froide, et la paranoïa en tant que telle, c'est un carburant fictionnel évident sur lequel on peut travailler.
Et alors, le meilleur exemple pour ce propos, c'est la mission d'Elvin auprès de Argus Island. On est en juillet 1966. Tu indiques que ce sont les plongées 145 et 153 d'Alvin. C'est une île située au large des Bermudes. Argus Island est-elle réelle, est-elle fictionnelle, est-elle utopique ou mythique? Tu fais donc le lien avec l'utopie de Thomas More, mais tu te documentes, tu trouves des documents, et là, ça nous captive. Moi, je t'ai imaginé en train de faire ces recherches autour d'Argus Island, où soudain, tu as ton usine à fantasmes qui fonctionne avec, bien entendu, les Bermudes, l'utopie, et puis soudain, tu te rends compte quand même que ça, qu'il y a quelque chose de tangible, et quelque chose qui est de l'ordre du secret défense, tout simplement, quoi. Et là, effectivement, on est dans l'excitation d'un imaginaire guerre froide.
Alors, en fait, Alvin, donc, qui est opéré depuis les années 60, a participé à près de 5 000 missions de plongée sous-marine. Et l'institut, le Woods Hole Oceanographic Institute, fait très bien les choses et ils ont répertorié sur leur site internet l'exhaustivité, l'intégralité, en tout cas l'intégralité, à moins d'imaginer qu'il y ait des carnets doubles, comme de la comptabilité double dans les histoires de mafia. Et donc, à partir d'une base de 5 000 missions, j'étais bien sûr plus intéressé par les missions successives à l'opération de recouvrement de la bombe atomique. Et là, dans le carnet de bord, qui contient des données purement de longitude, de latitude, de zone de mission, je découvre, donc dans une des premières centaines de ces missions, la mention d'une île, donc Argus Island. Et donc la première chose que je fais, c'est de, comme je n'ai jamais entendu parler d'Argus Island, même si le personnage d'Argus, lui, est un personnage mythologique très intéressant, parce que c'est dans Ovid, c'est celui qui voit tout, il a peut-être une omniscience, parce qu'il a une paire de milliers d'yeux, des yeux, et donc on est dans la reconnaissance, dans la vision, dans le radar, ce qui est très lié à toute notre histoire. Et donc la première chose que je fais, c'est de voir où se trouve Argus Island. Donc je cherche sur Google Earth et autre part, et je ne trouve aucune mention d'Argus Island. Quand je rentre les coordonnées donc de longitude et de latitude extrêmement précises restituées par l'Institut océanographique, je ne trouve rien, pas d'île, rien du tout. Et donc, effectivement, il y a quelque chose de très troublant et de très excitant de se dire qu'il y a une mission au bord d'une île qui ne figure nulle part. Et là, c'est vraiment la Terre incognita, en tout cas celle qui redevient incognita, puisqu'elle a existé. On imagine les services de bonne foi et de ne pas inventer quelque chose qui n'existerait pas. Et donc, je cherche, et puis finalement, j'ai beaucoup de chance. À un moment, je tombe sur le compte Google Plus d'un retraité américain qui a posté sur ce compte plusieurs images. À l'époque, il habitait dans les Bermudes et il faisait de la navigation. Et il est parti un jour en mer et il a photographié cet Argus Island. Et donc, c'était les seules images que j'ai découvertes d'Argus Island. En même temps, c'est assez émouvant parce que c'est des images qu'on trouve de première main, auprès d'une personne qui a vraiment visité les lieux. On se demande d'ailleurs, c'est étrange que sa petite embarcation ait pu s'approcher si proche de cet endroit. Et puis Argus Island, et c'est là où on se rend compte qu'Argus Island, en fait, elle a comme nom une île. Hein. Et d'ailleurs, on voit véritablement le nom Argus Island imprimé sur, en fait, ce qui est une plateforme, comme une plateforme de forage pétrolier. Mes plateformes, en réalité, construites sur un atoll, d'où l'idée d'une île. Et donc là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a vraiment trouvé quelque chose comme dans une enquête. Et on est très, très étonné de découvrir la réalité de cet objet, de cette île qui est complètement impalpable parce qu'elle n'existe plus, parce qu'elle a été détruite et donc il n'en reste rien, comme si rien n'était arrivé, comme si l'histoire n'avait jamais eu lieu, puisque de toute façon ça fait partie de cette histoire secrète. Et donc Alvin était dans les parages parce qu'Alvin était utilisé justement dans le cadre de cette île, et cette île militaire, elle avait bien sûr comme fonction, c'était une île de repérage, de sonar, avec une utilisation d'une nouvelle technologie de sonar, dans le cadre de la guerre froide, justement, pour parer à la présence inopportune, de sous-marins, nucléaires, soviétiques.
Il y a quelques photographies donc prises par ce marin et une photographie très très troublante. Alors effectivement, on voit cette base qui ressemble à une plateforme pétrolière et il y a une photographie. On voit on va dire le bord du bateau sur lequel était le photographe et il y a une main qui tient le bord et main, on dirait qu'elle sort de la mer, enfin c'est étonnant. Alors à moins que ce soit son bras gauche et il prendrait la photo de la main droite, mais cette main est très très troublante, comme s'il y avait quelqu'un qui sortait de la plateforme et qui allait accoster le bateau. J'imagine que forcément ça c'est un objet de fantasme, hein. Parce qu'on voit, on la voit cette photo.
Oui, en plus, la présentation de ces images que moi j'ai repris exactement la même présentation qu'il a offert, puisqu'en plus, c'est un compte Google Plus qui est fermé, donc plus rien n'existe. Il offre un montage, un séquençage de prise de vue du plan très lointain au plan rapproché. Cette main qui sort, effectivement, c'est un hasard pour le livre, au sens où elle peut être emblématique de cette mythologie de ces créatures sous-marines, puisqu'après il y a plein de choses autour des sirènes, des créatures donc de la mer, on accoste sur un bateau. Mais ça pourrait être aussi un selfie avant l'heure, hein, où il était probablement seul, c'est une petite embarcation, et il a pris une photo de cette île et il devait se tenir sur le rebord du bateau, et donc son avant-bras et sa main sont présents à l'image. Donc il est en partie présent juste par ce détail physique, et il prend en photo cette île qui surgit de la mer.
Et alors, tu clos cet épisode sur cette île de cette manière-là, je te lis. La mission est on ne peut plus floue et les images rapportées des profondeurs demeurent invisibles. Sorties de l'Atlantique et du bain photographique, les révélations sont scellées, secret défense. Adieu, dit Alvin, voici mon mystère. Il est très simple, on ne voit bien que dans le secret. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien que dans le secret, l'essentiel est invisible pour les yeux. Tu fais parler le sous-marin. Cette phrase est absolument magnifique parce que c'est vraiment cette usine à fantasmes, c'est ça qui fait tenir aussi le texte. On ne voit bien que dans le secret, l'essentiel est invisible pour les yeux.
Bien sûr, ça reprend la phrase bien connue du Petit Prince, puisque le livre s'amuse aussi avec ce registre de citation, parce que c'est une enquête, mais il y a une légèreté dans le texte, même si l'histoire est assez sombre, parfois complètement macabre. À nouveau, il y a un ensemble d'images, donc on pourrait penser qu'on est dans une extrême visibilité dans le livre, puisque les images contribuent à ça. Elles sont là également parce qu'il y en avait besoin, parce que l'histoire, historiquement parlant, les choses sont tellement invraisemblables que ces images-là me servent de preuve. Mais c'est aussi, il y a un nombre de photomontages, donc des images qui ne sont plus de l'ordre du documentaire, mais de la mise à fiction, comme si la mise à fiction était une mise à distance du documentaire. Et donc c'est dans ce jeu de l'invisibilité, du fait qu'à nouveau, il y a très très peu de documents, par exemple sur Argus Island, il y a très très peu de choses, au point où les rares informations que j'ai pu glaner ici ou là émanent d'un rapport financier de 1967, d'une entreprise très étrange qui est à cheval entre l'armement, le nucléaire, l'ingénierie pour la NASA, le président de cette société qui a fait fortune en inventant l'hélicoptère moderne, a lui-même lancé une entreprise de création de guitares électriques. Donc on est dans un mélange entre le pop, le rock et l'armement. Donc on dépasse complètement l'antinomie flower power et terreur nucléaire. C'est vraiment, on est entre les deux, d'où l'aspect relativement comique et satirique du propos. Et donc, pour revenir à cette phrase, c'est parce que même si je mène cette enquête, à nouveau, c'est pas le livre, c'est pas un livre comme peut d'ailleurs le faire les services secrets ou autres de proposer à la lecture. Par exemple, je me rappelle, l'armée américaine avait sorti un énorme pavé à une époque sur le mystère de Roswell, pour montrer que l'histoire était fausse. Mais c'est quand même assez comique que ça vienne de l'armée américaine, d'un rapport officiel pour invalider l'histoire de Roswell. Là, on n'est pas dans ce cadre-là. Moi, je n'ai pas accès à un certain nombre de données. Et donc, j'utilise ces données, le peu que j'en ai, pour créer une mise en fiction de ces données-là. Et donc, on reste toujours, finalement, relativement dans le mystère.
Justement, j'aimerais conclure là-dessus, Alessandro, sur le statut de la personne qui écrit ce livre-là. C'est un livre, c'est hybride. On est à la fois dans l'histoire culturelle, on est dans un livre aussi où il y a de l'invention à partir de ce fantasme de lien. On est dans un livre d'histoire de la guerre froide. On est dans un livre documenté sur un sous-marin, mais ce sous-marin, il devient presque un personnage, parce que ce sous-marin, il a un prénom. Bon, alors même si ça reprend un peu le nom de l'inventeur, de son concepteur, c'était Alim Vin, et donc du coup, c'est une contraction pour faire Alvin, mais quand un sous-marin s'appelle Alvin, c'est pas non plus anodin. C'est vrai qu'on peut avoir tout de suite envie d'en faire un personnage. On croise des figures mythologiques, on croise donc des missions secrètes, mais aussi toute une flore, parce qu'il y a une histoire naturelle aussi, l'histoire naturelle du fond des océans, issue des missions d'Alvin. Comment est-ce que tu conçois ton statut à toi qui fait pas que mener une enquête, qu'il ne fait pas que restituer une enquête, ce n'est pas une enquête de journaliste. Tu considères ce que tu as fait, cette entreprise-là, comme une entreprise artistique, comme un livre d'artiste, comme le livre d'un vidéaste, tu es vidéaste, Alessandro, comme celui d'un écrivain. Comment définirais-tu, toi, ce que tu as fait en tant que créateur pour faire ce livre?
Alors, a posteriori, ça m'évoque le travail littéraire, ça peut le rappeler, des aventuriers, écrivains, navigateurs du 16e, 17e, où on est à la fois dans une problématique de découverte scientifique, mais où l'on se rend compte aussi qu'on est dans une œuvre de fiction. L'éventail est extrêmement large, parce que ça peut aller jusqu'à cette extrémité de ces aventuriers qui ne sont jamais sortis de leur chambre et qui écrivent des voyages. Et je ne parle pas de Swift là, je parle de d'autres aventuriers qui se sont vraiment prétendus aventuriers et qui ne sont jamais allés plus loin que la frontière la plus proche. Et donc là-dedans, l'auteur a une fonction un peu trouble parce que si on est à la fois dans une problématique vraiment scientifique de description de ces espèces très, très nouvellement découvertes, et en même temps d'une restitution d'une mythologie de ces contrées, de ces îles, ça crée un mélange qui ne participe pas complètement de l'acception que l'on peut avoir aujourd'hui de l'auteur. Je pense que, en se référant au 17e, ces formes hybrides étaient peut-être beaucoup plus communes dans le champ littéraire. D'ailleurs, le champ littéraire en lui-même était aussi perçu comme étant beaucoup plus large. Il englobait à la fois des récits de voyage, le récit de voyage comme un genre littéraire en soi. Mais là, je parle d'un récit de voyage qui problématise la véracité même des contrées qui sont visitées.
Donc tu en fais une généalogie intellectuelle qui remonte à plusieurs siècles.
Oui, parce que l'intérêt pour la mythologie, en fait, et c'est à la fois, c'est à nouveau dans l'histoire des mots. On a parlé de la galette Yeti, de Alvin, de ce terme, de ce nom d'Alvin. Mais par exemple, quand j'évoque Artemis, déesse de la chasse, parce qu'il y avait un projet top secret de l'armée américaine qui s'appelait Projet Artemis, mais s'appelait Projet Artemis parce que l'ingénieur en chef de ce projet l'avait nommé tel. Et là, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est la problématique aussi des noms, de conflits. Comment on donne un nom à une guerre, à un conflit, à une mission. Ce rapport aussi entre la propagande et le storytelling, en fait. Mais cette Artemis-là, elle est Artemis parce que l'ingénieur a pour nom, je n'ai que son nom de famille en tête, hein, là, Hunt. Hunt, qui est la chasse en anglais. Et donc, on passe de Hunt à Artemis. Et donc, eux-mêmes, en fait, au sein de ces organismes secrets, plus ou moins connus ou disciples, s'amusaient de tout cela, en tout cas s'amusaient, mettaient en fiction ou mettaient en scène pour des problèmes de communication le nom même de leur mission. Donc, tout le livre joue beaucoup aussi autour de la terminologie. Réel de ces missions, de ces compagnies, de ces espèces animales, de ces espèces florales, et comme un ballet un peu subaquatique. D'ailleurs, je parle de ballet parce qu'il y a une scène qui se veut assez comique, un peu à la Walt Disney, où toute la faune sous-marine se met de concert à interpréter une symphonie sous-marine. Et je dis ça parce que ça paraît complètement loufoque. Et c'est loufoque parce que le livre mêle à la fois ces données sérieuses, documentées, à un imaginaire assez loufoque qui s'y prête. On avait dit Alvin, ça fait penser déjà à un dessin animé dans l'anthropomorphisme. Et il y a des scènes, il y a ça, je veux dire des missions, par exemple, quand un espadon va embrocher Alvin. Quand on lit ça sur les carnets de bord d'Alvin, on a du mal à y croire. Et je tenais absolument à voir de mes yeux ce qu'il en était. Donc j'ai contacté l'Institut de recherche océanographique qui m'a communiqué cette image. Et on voit véritablement un espadon qui a embroché Alvin. L'espadon, le rostre de l'espadon est dans la coque du navire. Et donc c'est un univers sous-marin où il y a un registre de possibles qui s'avère réel et qui est une matière elle-même à fiction.
Dans cet épisode, il faut quand même préciser que il y a à chaque fois trois occupants, trois scientifiques généralement dans Alvin. C'est-à-dire que quand l'espadon a embroché Alvin, on voit effectivement la photo plutôt impressionnante quand on voit la taille de l'animal. Voilà, il y avait des scientifiques à l'intérieur.
Oui, donc j'imagine que l'effet de surprise et surtout à la profondeur et à la vitesse, hein, parce que ce sont des créatures qui, je crois, peuvent aller jusqu'à 100 km/h, la violence et la peur doivent être assez prégnantes. Et c'est le cas pour un certain nombre de missions aussi, des câbles sous-marins qui lâchent, le submersible qui coule. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire un submersible qui coule? Puisque le but d'un submersible, c'est justement d'aller dans les profondeurs. Des missions très étranges aussi, de mer sous la mer, de lacs sous-marins, où l'on voit, là je le décris parce qu'on ne le voit pas, où l'on voit des vagues qui s'écrasent sur le plancher océanique, comme des vagues qui s'écrasent sur le rivage. Là, ces vagues sont des vagues sous la mer. Et donc là, oui, on est dans cette dimension même très paradoxale. Et c'est là où je parlais d'univers du possible. Parce que dans ces abysses, il y a toute une vie qui est nouvellement décrite, qui intéresse beaucoup d'ailleurs les scientifiques et la NASA, parce qu'il y a une multiplicité de vie dans des conditions qui paraissent impossibles, improbables au développement de la vie, comme l'interrogation du développement de la vie, de la présence de vie potentielle avec le carbone et l'eau sur des planètes. Et donc c'est véritablement, et bon, et à nouveau, là on est finalement dans la fantasmagorie de Jules Verne, qui mêle le développement scientifique industriel et la féerie sous-marine. Puisque c'est moi ce qui m'intéresse là-dedans, et c'est un plaisir d'enfant finalement, c'est cette féerie sous-marine que l'on rencontre tout simplement en allant dans la mer, en prenant un masque, un tuba et en plongeant. Et c'est un univers bariolé, très sensoriel, très visuel. Et c'est ça qui est pour moi finalement le moteur du plaisir, en tout cas de la fabrication du livre.
Merci beaucoup, Alessandro Mercuri. Nous parlions donc le dossier Alvin, enquête, archive, photographie.
Merci.